mystère assez grandiose, une rencontre avec le Christ, une rencontre avec Dieu. Je vous demande que vous ayez vraiment conscience de ça. Puisque Jésus-Christ, mort et ressuscité, est vivant dans son Église aujourd'hui, eh bien, on peut le rencontrer sans, comme je vous parle. Et c'est ce que vous propose de vivre ce soir, un cœur à cœur avec, avec Dieu. Donc soyez attentifs de maintenant si vous voulez bien. De fait, hein, on vous dit qu'il y a un temps pour tout. Je vous demande un peu d'attention maintenant. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure ce que signifie être saint, être trois fois saint pour Dieu, ça veut dire qu'il y a des séparations. Ce que vous allez faire ce soir, c'est aller visiter ce qu'on appelle le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est pour montrer qu'il y a des temps et des lieux qui sont sacrés et dans lesquels on ne fait pas la même chose que quand on est dans un monde profane. Vous distinguez cette distinction, ce qui est profane et ce qui est sacré. Quand on rentre dans une basilique, tant qu'on est à l'extérieur, on est dans le monde profane, dès qu'on est à l'intérieur, on est dans le monde sacré. Une séparation. Et donc on a un comportement profane. Le mot profane, ça vient du grec, tout vient du grec de notre religion. Ça veut dire devant le temple. Dès qu'on est rentré à l'intérieur, on est dans ce qu'on appelle le milieu sacré, qu'on appelle aussi, on a franchi une séparation, donc on l'appelle aussi le saint. Ça veut dire quelque chose? Le saint. Eh bien, on peut encore, à l'intérieur du saint, à l'intérieur du milieu sacré, pénétrer une zone encore plus sacrée qu'on appellera le Saint des Saints. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est très, très ancien ce que je vous dis. Du temps de Jésus, il y avait le temple. Le temple, c'était là où vivait Dieu. Et dans le temple, il y avait des séparations. Et la première séparation, tout le monde avait le droit d'y rentrer. Puis la deuxième séparation, un peu moins de monde, etc. Il fallait être dans certains degrés, certaines classes, certaines catégories des hommes. Et puis finalement, la dernière séparation, personne n'avait le droit d'y rentrer. C'était là que Dieu demeurait. Et c'est cette dernière séparation qui était symboliquement matérialisée par un rideau. Un simple rideau que tout le monde avait la liberté d'ouvrir, mais que personne ne touchait. Ce rideau qui séparait le saint du saint des saints dans le temple. Parce que vous avez déjà vu les schémas du temple de Jérusalem au temps de Jésus. Le saint des saints, c'était le lieu sacré où était conservé les tables de la loi dans l'arche d'alliance. Finalement, quand on avait perdu l'arche d'alliance, il n'y avait plus rien dans ce saint des saints. Mais c'était quand même le lieu où Dieu demeurait, un lieu vide, séparé par un rideau, et personne n'y touchait. Je vous dis ça parce que vous avez aujourd'hui ce lieu vide, c'est symbolique hein, dans l'ancienne alliance, dans le temple de Jérusalem, ce lieu vide est aujourd'hui réellement habité par le Christ vivant, mort et ressuscité. Donc il n'y a plus, le saint des saints n'est plus un lieu vide séparé par un rideau. D'ailleurs, quand Jésus est mort, ce rideau s'est déchiré. Par contre, Dieu est véritablement venu habiter ce qu'il y a de plus sacré. Le Saint des Saints, aujourd'hui, ce n'est pas derrière un rideau dans un temple quelque part sur terre, c'est notre cœur. Et pas notre cœur qui fait tac-tac quand on aime quelqu'un très fort. Le lieu le plus profond de notre âme. Et bien ce que vous allez vivre ce soir, devant Saint-Sacrement, et en vous confessant, vous allez descendre en profondeur dans votre âme, dans ce lieu sacré, dans ce Saint des Saints, qu'on appelle aussi le sanctuaire de votre âme. Et pour vivre, pour descendre en profondeur dans le sanctuaire de votre âme, on fait ça dans un lieu sacré, dans la basilique, et au cœur même de la basilique, vous devez savoir ça, donc c'est vrai dans toute église. J'ai dessiné une église, comme je dessine la basilique. Voilà, la basilique, elle a grosso modo ce schéma-là. Vous voyez tous ? Ici, c'est ce qu'on appelle le cœur, mais ici, c'est ce qu'on appelle la croisée des transepts. Ici, c'est la nef. La nef, c'est un peu comme autrefois dans le temple de Jérusalem, tout le monde a rendu. Mais ici, tout ça, c'est ce qu'on appelle le sanctuaire. le Saint des Saints, ou plutôt le Saint, si vous voulez, le sanctuaire, le Saint. Là, tout le monde n'a pas le droit d'entrer, normalement, les choses ont évolué. Et puis ici, vous savez qu'il y a l'autel, et dans l'autel, le tabernacle. Et dans le tabernacle, qui c'est qui y habite ? Jésus. C'est donc là qu'est le Saint des Saints d'aujourd'hui, si vous voulez. Alors, pour vous aider à descendre dans les profondeurs de votre âme, dans le sanctuaire de votre âme, dans le Saint des Saints de votre âme, là où demeure l'Esprit Saint, là où demeure Dieu, et là où vous vivez avec le Christ, puisque vous êtes ce Christ, eh bien, on va venir dans l'Église, et puis on exposera, alors ici, à la croisée des transepts, sur l'autel qui est à la croisée des transepts, un autel, c'est un lieu important, si l'autel, c'est un lieu très sacré. L'hôtel, c'est pas une table comme une table de pique-nique ou de camping. Ou... L'hôtel, c'est une pierre, c'est un lieu sacré où on ne dépose jamais rien sur l'hôtel. Vous n'avez pas le droit de venir dans une église, et puis tiens, vous avez un document sous la main, toi, vous le posez sur l'hôtel parce que c'est pratique. On ne pose rien sur l'hôtel. La seule chose qu'on pose sur l'hôtel, c'est ce que l'on veut offrir à Dieu. Qu'est-ce qu'on va offrir à Dieu ? Le pain, le vin, la messe, et nous-mêmes, notre vie. Comme symbolé sur l'autel. Puis à l'inverse, l'autel sert à Dieu. Dieu va déposer sur l'autel ce qu'il veut nous donner. Son corps, son sang, sa vie. Voilà, pensez à ça. L'autel, c'est un lieu très sacré. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Ici, sur cet autel-là, on va déposer, exposer plutôt, le corps du Christ. Dans un, vous savez comment ça s'appelle? Un ostensoir. Voilà, un truc comme ça. Avec des grands rayons. Je vais vous sortir exprès pour vous l'ostensoir monumental de la basilique, ça vous en mettra plein les yeux. Mais ce qui est important, ce n'est pas la beauté, l'or et les diamants de l'ostensoir. Ce qui compte, c'est celui qui est au centre, qui est beaucoup plus précieux que tout ce qu'il y a autour. On exposera donc le Saint-Sacrement pour vous aider à descendre dans le sanctuaire de votre âme et à vivre à ce moment d'intimité. C'est très difficile parce que nous, on est habitués, vous, en particulier, vous êtes habitués, voilà, vous parlez, chacun sa voisine. C'est un réflexe tout à fait humain, dès qu'on a une personne humaine en face de soi, on lui parle. Il y en a qui font la tête et qui parlent à personne. Ça, c'est un autre problème. Mais quand on a quand on est normalement constitué, et qu'on a un être humain en face de soi, on engage le dialogue. On ne peut pas s'en empêcher, même si on doit écouter, on parle quand même à sa voisine ou à son voisin. Tout ça marche dans les deux sens. C'est pas que vous, demoiselle. Chacun son mode de communication. Alors c'est ça qui va être difficile pour vous ce soir, c'est de vous dire, je vais aller dans la basilique, dans la nef, je pourrais même m'approcher du centre du Saint des Saints, du sanctuaire, comme si j'étais tout seul sur terre, pour pouvoir effectivement descendre dans mon âme. Jouez le jeu, s'il vous plaît. Jouez le jeu pour vous. Vous le regretterez après si vous l'avez mal joué. Si vous n'avez pas vécu ça, si vous avez fait exprès de ne pas vouloir descendre à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre âme, pour véritablement rencontrer l'Esprit Saint, le Christ qui est vit en vous, vous regretterez toute votre vie. Parce que vous ne faites qu'un seul week-end à Mont-Lyon, et comme chaque instant de votre vie d'ailleurs, il ne faut pas laisser passer les instants comme ça. Il faut les vivre en plénitude et en profondeur. Donc on met tout en condition pour que vous puissiez vivre de manière extraordinaire cet instant de rencontre avec Dieu. Donc pour vous, jouez le jeu. Pas pour nous faire plaisir. Moi, ça fait longtemps que je fais des heures d'adoration dans la basilique. Si j'en loupe une, demain j'en fais une, donc c'est pas très grave. Vous en avez qu'une soirée à mon Dieu. Cela ne le loupez pas. Et qu'est-ce qu'on contemple dans l'hostie? Donc c'est pas le moment, même si vous vous mettez au fond de la nef, vous pourrez vous mettre au fond de la nef, vous pourrez vous mettre en haut de la nef, vous pourrez vous mettre sur les marches là, tout près, vous savez, il y a des marches ici où on rentre dans la basilique, et puis autour de l'hôtel il y a des marches en haut, vous pourrez vous mettre tout près. Soyez seul avec votre Dieu. Et que vous soyez tout près ou tout loin, regardez le corps du Christ, regardez l'hostie consacrée, regardez le Saint-Sacrement, que vous fixiez votre regard sur l'hostie. On mettra une belle lumière, ça sera une lumière, ça sera toute blanche, ça sera très belle. Il faut que vous en ayez mal à la tête à force de fixer toujours le même point. à regarder vraiment le Saint-Sacrement et poser ces actes de foi qui vont faire vivre et surgir et sourdre en vous l'Esprit Saint, en croyant que cette hostie consacrée n'est pas qu'un vulgaire morceau de pain, mais que c'est véritablement le corps du Christ, puisqu'il a été consacré par un prêtre à la messe, que le prêtre a reposé les mêmes gestes que le Christ en prenant le pain et disant ceci est mon corps. Cette parole est extraordinaire de Jésus qui a pris du pain et a prononcé ces paroles-là. C'est ça, ce truc, ce bout de pain, c'est mon corps. Le prêtre refait le même geste que Jésus. Il le fait au nom du Christ en vertu de son ordination sacerdotale. Donc parce qu'il est prêtre, vous, si vous le faites, ça ne marchera pas. Parce qu'il est prêtre, quand il fait ce que veut faire l'Église à ce moment-là, avec les ordonnements du prêtre et tout, à la messe, eh bien, avec la vertu de son ordination sacerdotale, vous devez faire confiance aussi que le prêtre est vraiment prêtre. C'est-à-dire qu'il a vraiment été ordonné par un évêque qui est vraiment évêque. Et ça, c'est un truc que vous devez savoir aussi. Pour votre confirmation, vous-même, vous avez rencontré un évêque. Il y a, pour que vous preniez conscience de ça, quand vous voyez un prêtre, vous pouvez tout de suite penser à l'évêque qui l'a ordonné et prêtre. Et quand vous pensez à l'évêque qui l'a ordonné prêtre, vous devez savoir qu'il y a ce qu'on appelle une succession infaillible d'évêque en évêque jusqu'aux apôtres. On peut remonter. Donc moi, par exemple, c'est Monseigneur de Germigny, évêque de Blois, qui m'a ordonné prêtre. Je vous montrerai ça. Ce soir, je vous apporte ça. J'ai la liste de tous les évêques. Donc, Monseigneur de Germigny a été ordonné évêque par Monseigneur Lustiger. Monseigneur Lustiger a été ordonné évêque par... Bon, j'avoue, j'ai oublié son nom. Je sais que c'est un évêque qui l'a ordonné évêque. Et je vous montrerai, j'ai son nom. J'ai un tableau avec tous les évêques. La succession des évêques, eh bien, il y a une succession infaillible comme ça jusqu'aux apôtres. Donc, quand vous voyez un prêtre, vous voyez un témoin des apôtres, un témoin du Christ. Quand vous voyez un évêque, le jour de votre confirmation, vous verrez votre évêque, ben c'est Monseigneur Lemonnier, votre évêque. C'est lui qui vous confirmera. Et c'est lui, dimanche prochain, c'est lui qui sera à Montlignon pour notre grand pèlerinage. Donc je lui dirai que j'ai vu les confirmants du Collège du Sacré-Cœur. Eh bien, quand vous voyez un évêque, vous voyez un témoin authentique du prêtre, du Christ, des apôtres, parce qu'il y a une succession infaillible d'évêque en évêque, comme ça. Donc ça, c'est important. Quand vous voyez un prêtre qui célèbre la messe, ce n'est pas des paroles en l'air qu'il prononce, c'est des paroles qu'il a reçues de cette succession qui viennent du Christ lui-même. Ce qui vous donne la preuve dans la foi que le pain consacré est véritablement le corps du Christ. Et ce sont les mêmes paroles de Jésus qui viennent jusqu'à nous par cette succession apostolique. Si vous prenez quelques notes, notez l'importance de faire du mot. Ah, c'est la voisine, forcément. Adam et Ève, ils l'avaient fait comme ça aussi, c'est pas moi, c'est elle. Ce sont nos oreilles, mais c'est pas bon. Non, par contre, c'est bien le schéma de la basilique qui est très bien fait. Notez donc l'importance de la succession apostolique. Ah ben, il y en a qui se réveillent et qui ouvrent le livre maintenant. C'est donc pas parce qu'on est au premier rang qu'on est les meilleurs élèves. C'est pour ça qu'on vous fait rencontrer l'évêque le jour de votre confirmation. C'est pour que vous soyez fort dans votre foi. La succession apostolique, notez qu'elle nous fortifie, vous pouvez noter qu'elle nous confirme dans la foi. Donc l'hostie que vous allez voir pendant l'adoration tout à l'heure, elle ne tombe pas du ciel, ou plutôt si, elle vient de Dieu lui-même, elle vient de la parole du Christ que le prêtre a prononcée sur elle, pour la consacrer. Et si vous avez des doutes, ne laissez jamais le doute s'enraciner en vous, dans votre esprit. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est de considérer la présence réelle du corps ressuscité, s'il vous plaît. Il est vivant là, dans cette hostie consacrée qui sera exposée à votre adoration. Alors pendant l'adoration, qu'est-ce qu'on fait ? En général, pendant l'adoration, comme ça dure un certain temps, on s'ennuie. Et c'est justement parce qu'on s'ennuie qu'on va commencer à voir, et toi tu t'ennuies, non, toi tu t'ennuies pas, oh, si tu bon par moi, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait, il n'y a pas de musique, il n'y a rien à faire dans cette musique, en plus il fait froid, etc. Et hop, c'est parti, on a oublié que y avait Dieu qui était là. Je suis sûr que si je vous promets un rendez-vous avec, je ne sais pas quelle est votre idole, votre star, de je ne sais pas quoi, voilà, vous serez là, assidu, en suivant des yeux, du regard et tout. Et là, je vous donne Dieu, et vous allez vous ennuyer devant Dieu. Honte à vous. C'est très très dur de tenir son attention sur cette présence réelle du Christ ressuscité. Si encore on voyait Jésus tout brillant de lumière, là, comme sur l'icône, ou je sais pas, en chair et en os, eh bien on se dirait, ah, ben, ce serait bien, alors on serait attentif. Hein. Eh bien, non, c'est beaucoup mieux. Parce que ce que vous allez contempler, c'est cette hostie, simplement, sacrement de sa présence réelle, ça fortifie la foi. Si vous voyez une apparition de Jésus, coucou, c'est moi, tout lumineux, tout blanc, ben, vous n'auriez pas la foi. Ceux qui ont des apparitions, ça ne leur sert à rien pour la foi. Ce qui compte pour la foi, c'est de croire en la parole de Dieu. Ceci est mon corps. Ça va ? Ça bouge ici, hein ? Donc, c'est très difficile de fixer son attention. Alors, pour fixer votre attention, pour vous aider surtout à ne pas regarder le voisin, mais toujours bien regarder Jésus, vous avez le droit d'avoir, vous aurez votre cahier. Dedans, vous avez des prières, vous pouvez y avoir tout ce que vous voulez. Et puis surtout, vous pouvez, c'est un peu compliqué pour vous d'amener vos Bibles, mais si vous avez des passages bibliques qui sont notés dans vos cahiers, lisez ça en priorité. Je pense que vous devez en avoir dans vos livrets, des passages de l'Évangile. Enfin, faites tout pour aider votre esprit à se fixer sur la présence de Jésus. Et vous pouvez lire l'Évangile en disant, bon, j'ai déjà lu ce texte. Vous lisez un verset, et puis vous regardez de nouveau l'hostie. Et voilà, et vous passez le temps comme ça. À faire des allers-retours entre le verset, ou des allers-retours, vous faites un allers-retour dans votre cœur, en examinant cette discipline. En examinant comment vous aimez Dieu, comment vous aimez Jésus, vous faites une introspection de toute votre vie avec Jésus. Depuis votre dernière communion, ou depuis votre dernière confession, depuis le dernier sacrement que vous avez reçu. Pensez à tout ce que vous avez entendu depuis ce matin, dans la communion des saints. Cette amitié que vous pouvez avoir avec un saint, ou avec un défunt. Voilà, pensez à tout cela, nourrissez-vous de tout cela, et par-dessus tout, nourrissez-vous de la vie du Christ qui se donne à vous, qui se livre à votre regard. Et simplement, sachez de l'aimer. Sachez lui dire, je ne comprends pas tout comment tu as pu faire pour rentrer dans cette hostie, mais je veux t'aimer. Je choisis de t'aimer. Je veux t'aimer. Pensez aussi à cette phrase de Sainte Thérèse, je veux voir Dieu. Et vous voyez Dieu effectivement en voyant cette hostie consacrée. Que cette hostie consacrée aussi, comme c'est le corps vivant du Christ ressuscité au-delà de la mort, vous établisse en communion avec tout le monde divin, tout le milieu de Dieu, propre saint, en communion avec tous les saints du ciel, en communion avec tous les anges, et en communion avec tous les autres défunts. Notez cela dans vos livrets, que pendant l'adoration eucharistique, c'est un moment par excellence où on est en communion avec toute la communion des saints. Les saints dans la gloire, les âmes autour de la gloire, et les anges, et tous nos frères. Finalement, si vous avez un ami qui n'est pas là, vos parents, vos frères et sœurs, quelqu'un qui n'est pas là physiquement, mais qui est là dans le corps du Christ, puisqu'il est membre du corps du Christ, donc il est là dans le style spirituellement. Tout le monde est là. Toute l'Église est là. On est dans la communion des saints. J'arrivais à noter là, parce que vous êtes peut-être habitué à prendre des notes. Maintenant, vous ne prenez que des notes. Je vous félicite. Je peux répéter, non, je ne vais pas répéter, donc je dis ce que tu as noté pour continuer la phrase. Pendant l'adoration eucharistique, on est en communion avec toute la communion des saints. Ensuite, pendant ce temps avec Jésus que vous passerez, il y aura donc de nombreux prêtres à votre disposition pour que vous puissiez donc les rencontrer et puis vous confesser. Donc très concrètement, je pense que vous avez un certain usage, j'espère que vous avez un certain usage de la confession, et que votre dernière confession ne remonte pas à votre profession de foi, et que vous vous êtes vouloir votre première communion, mais que vous avez la grâce, le loisir de pouvoir vous confesser régulièrement au collège du Sacré-Cœur. Je ne sais pas si vous me donniez tout à l'heure, tout le temps. C'est le chapelle, il faut un prêtre pour pouvoir se confesser. Deux fois par an. Allez, allez, allez. Si ce jour-là, on entend dans le Alors, quand on se confesse, c'est très délicat de se confesser, d'avouer, il faut passer à l'aveu, avouer ses péchés, ses fautes, ses erreurs, ses manquements. C'est très difficile, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, vous le travaillerez quand, si vous descendez bien dans votre cœur, et descendant dans votre cœur, dans le Saint des Saints à l'intérieur de vous, vous rebondissez sur la présence du Christ, et aussitôt vous regardez Jésus dans l'hostie consacrée, pendant l'adoration. Vous faites des allers-retours de votre cœur, où vous voyez un peu la misère de votre vie. Ah ouais, j'ai pas bien écouté pendant l'exposé du Père Guillaume. Ah ouais, j'ai pas obéi pendant la retraite. Ça, c'est un péché. Voilà. Bon, je ne vais pas faire votre examen de conscience à votre place. Faites un examen de conscience, mais surtout, ne vous contentez pas de cet examen de conscience. Vous déprimeriez si vous étiez juste avec vous. Si vous étiez attentif à tous vos péchés, vous mourriez sur place de honte et d'infamie, de déshonneur et de... C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que, quel que soit votre état de misère, vous sachiez rebondir sur le Christ qui est en vous. Vous voyez, tout à l'heure, on posait une question. Comment est-ce que le Christ peut vivre en tout homme s'il y a encore des méchants sur terre? Le Christ peut vivre en moi, et pourtant, moi, je peux demeurer pécheur. C'est très mystérieux. Mais même si je suis pécheur, si je descends vraiment au plus profond de mon âme, dans le sanctuaire de mon âme, je rencontre le Christ. Et je sais que le Christ, même si je suis pécheur, même si je suis pécheur, le Christ m'aime. C'est pas le même. Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà. Parce que je dis ça pour ceux qui prennent des notes, quand on les fait vite, à la fin, on le fait dans le bras. Le Christ m'aime, surtout si je suis pécheur. Et parce que si j'étais parfait, personne ne pourrait m'aimer, peut-être même pas le Christ. Jésus, à un moment, dit il y a un péché qui ne peut pas être pardonné, c'est celui qui se croit parfait. Il appelle ça le péché contre l'Esprit Saint. Le péché contre l'Esprit Saint, c'est celui qui dit j'ai pas besoin de l'Esprit Saint, j'ai pas besoin de la confirmation, j'ai pas besoin que Dieu m'aime. D'ailleurs, j'ai besoin que personne ne m'aime, je m'aime tout seul. Dieu m'aime. Découvrez que vous avez besoin d'être aimé, justement parce qu'en vous, il y a une petite misère, une petite faiblesse qui fait que vous n'êtes pas aimable. Je ne visais personne. Mais aucun de nous n'est parfaitement aimable. Donc on a besoin que Dieu nous aime précisément. C'est cet amour de Dieu qui va nous rendre aimables. Aucun de nous n'est parfait. C'est l'amour de Dieu qui va nous rendre parfait. Notez ça. Personne n'est parfait. Nous sommes tous pécheurs. Mais justement, c'est l'amour de Dieu qui nous rend aimables. L'amour de Dieu nous rend aimables. Ne croyez pas que Dieu vous aime parce qu'il a repéré en vous toutes vos qualités. Dieu vous aime parce qu'il a repéré depuis longtemps tous vos défauts. Mais ne confessez pas vos défauts, faites bien la distinction entre vos défauts et vos péchés. Ça c'est compliqué. Regardez-moi bien, parce que c'est compliqué ça. Quand vous allez vous confesser, vous pouvez dire au prêtre tous vos défauts. Mais ça ne nous intéresse vraiment pas vos défauts. Voyez. D'ailleurs, ça n'intéresse personne. Donc si vous dites je suis gourmand, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis pécheur, oui ça on sait, c'est pas la peine de le dire. Je suis gourmand, oui, ça aussi on s'en doute. Je suis orgueilleux, ah. Je suis orgueilleux. Il y en a qui se confessent en disant uniquement leurs défauts. Mais ça crève les yeux leurs défauts, donc c'est pas la peine de le dire, c'est pas ça qui est. Ne vous l'aurez pas. Hein. Vous pensez tout camoufler, je suis sûr que vous avez déjà vu tous mes défauts, donc c'est pas la peine que je vous les dise. Oui. Ah, Marie, elle est infiniment aimable. Oui, non, mais c'était pour faire comprendre que Dieu ne nous aime pas pour nos perfections, mais il nous aime aussi pour nos péchés. Ah, vraiment nul. Le plus nul de tous. Alors écoutez. Par contre, vous avez confessé vos péchés. Parce que vos défauts, c'est inhérent à votre nature. Allez, s'il vous plaît. Vos défauts sont comme inhérents à votre nature. Ben, vous n'y êtes pour rien. Oui, vous êtes orgueilleux, c'est comme ça. Par contre, vos péchés, c'est différent. C'est les actes. Là, dans telle circonstance, dans telle situation, j'ai écrasé mon frère, j'ai été vraiment orgueilleux, j'ai méprisé, je n'ai pas voulu l'aimer. Un acte. C'est ça que vous devez essayer de découvrir dans votre vie. Si vous regardez vos défauts, vous risquerez de déprimer. Pourquoi vous voulez, s'il vous plaît. Le péché, vous allez confesser un acte. C'est-à-dire, bon, je suis orgueilleux, mais c'est comme ça, vous allez vivre avec. Par contre, là, tel jour, j'ai vraiment posé un acte d'orgueil en méprisant les autres et en pensant que j'étais Superman. Et ça, c'est ridicule. Donc, ça, c'est ça qu'il faut confesser. Dites, je suis gourmand. Non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que tel jour où vous avez chapardé de la nourriture dans le placard et fait en sorte qu'il n'y ait plus rien pour le petit frère. Voilà, ça c'est contre. On pose la question, est-ce qu'on peut dire tous nos défauts, donc tous vos péchés? Ben, l'idéal, ce serait de dire tous vos péchés dont vous avez conscience depuis votre dernière confession. Alors là, c'est pour ça qu'il faut se confesser régulièrement. Vous comprenez le problème. Mais parce que vous ne pouvez pas vous souvenir de tout. Mais si vous ne vous en souvenez pas, il y a une petite formule où vous dites, voilà, depuis ma dernière confession, je me souviens de ces péchés pour lesquels je demande pardon. Et je demande pardon pour tous les autres dont je ne me souviens pas. Vous inventez une formule de ce genre-là en disant je me souviens de tel ou tel acte, tel ou tel péché, tel ou tel, voilà. Je me souviens pas de tout, mais je demande pardon pour tout. De toute façon, vous demandez pardon pour tout. Et Dieu vous pardonne tout. Et puis, si vous avez un doute sur tel ou tel péché, tel ou tel acte, est-ce que c'est bien péché, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait, est-ce qu'il faut que je dise, est-ce qu'il ne faut pas que je le dise, ben demandez tout simplement au prêtre à qui vous vous adresserez en disant, ben, en posant la question, est-ce que je dois dire ça, ben non, tu l'as dit, donc c'est bon. C'est tout simple. Et puis, surtout, pensez que le prêtre qui vous écoute, vous savez ça, il y a vraiment une grâce spéciale, mais je peux témoigner en tant que prêtre. D'abord, on entend beaucoup de monde en confession, donc je peux vous promettre qu'on ne se souvient pas de vos péchés. Vous pouvez nous dire le pire des péchés, le pire des crimes. Vous pouvez aussi, sans crainte, exprimer en demandant pardon à Dieu ce qui vous touche le plus profondément, de votre vie la plus intime qui soit.
Ce n'est pas au prêtre que vous parlez, c'est au sacrement du prêtre, du Christ, pardon. C'est au Christ lui-même. Il est temps de présence réelle qui se passe au moment du sacrement de la confession. De même que dans l'hostie consacrée, vous avez réellement le Christ. Mais de la même manière, pendant la confession, le prêtre est réellement le Christ. Et de même que, écoutez-moi là, je vais vous montrer ces phrases d'ailleurs. De même que, attendez, je vais vous dire ce que vous dites. De même que, à la messe, le prêtre dit, ceci est mon corps. Et ça, c'est la parole de Jésus. Donc c'est bien Jésus qui parle. De même à la confession, le prêtre, de même en imposant les mains sur vous, pour vous transmettre le don du Saint-Esprit, il dira, je vous pardonne tous vos péchés. C'est pas un homme qui peut dire ça. Dans l'évangile, c'est clair qu'aucun homme ne peut pardonner les péchés. Puisqu'un péché, c'est un acte contre Dieu. Eh bien, il n'y a que le Christ qui peut pardonner les péchés. Que Dieu, que le Christ qui puisse pardonner les péchés. Donc quand le prêtre vous dit, je vous pardonne tous vos péchés, ce n'est pas l'homme qui le dit, c'est le Christ qui le dit en lui. Donc ayez cette foi. Encore une fois, ça réveille, ça fortifie votre foi. Hein. Vous n'aurez pas une apparition de Jésus, d'un Jésus tout habillé en blanc et tout lumineux pour vous pardonner vos péchés. Vous avez le sacrement de l'Eucharistie et vous avez le sacrement de la confession qui est une présence réelle du Christ qui vous pardonne vos péchés. C'est pour nourrir votre foi. Donc dans la foi, ne craignez pas de vous approcher du prêtre et de lui dire donc tous vos péchés. Le prêtre, en tant qu'homme, oublie. Nous ne retenons pas pour nous. Ce qui nous intéresse, c'est pas de nous souvenir « Ouais, celui-là, il fait ci, celui-là, il fait ça. » Vous pouvez même exprimer devant Dieu les choses les plus intimes de votre cœur, de votre âme, ce qui touche votre corps, votre être, votre chasteté, votre pureté, les amitiés entre vous, tout ce que vous avez vécu, subi, aimé, pas aimé, voulu, pas voulu. Ne craignez pas de tout dire. Le prêtre ne retient pas. Ce qui intéresse le prêtre, c'est de pouvoir vous donner la miséricorde de Dieu, de pouvoir vous donner le pardon de Dieu, de pouvoir vous révéler l'amour de Dieu sur vous, même si vous exprimez bien votre difficulté à aimer Dieu et votre prochain. Pour vous aider à l'examen de conscience, je vous dis le péché. Alors, pardon, faut que je dicte les phrases qu'il fallait écrire. Il fallait écrire. Ceci est mon corps et oui. Oui. Ça suffira. Ceci était mon corps, dit le prêtre, et puis vous écrivez aussi, je vous pardonne pour vos péchés. C'est Jésus qui parle. Notez que c'est Jésus qui dit ces phrases-là. Dans les sacrements. C'est vraiment Jésus qui dit « Je vous pardonne tous vos péchés. » « Je vous pardonne tous vos péchés. » Ou alors « Ceci est mon corps à l'Eucharistie. » Parce que ce soir, vous aurez les deux sacrements. Alors ensuite, je veux vous dire autre chose. Levez la plume. Qu'est-ce que c'est qu'un péché? Comment est-ce que vous allez faire votre examen de conscience? Un acte contre Dieu. Mais comment est-ce qu'on sait qu'on fait un acte contre Dieu? Parce que finalement, moi, le bon Dieu, je l'aime bien. Puis en plus, je sais qu'il m'aime bien. Donc je ne fais pas de péché. C'est même pas tellement une définition de bien, mal. Parce que ça, ce n'est pas à nous de juger tellement. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est difficile. Dieu seul et juge pour savoir si ça c'est bien, si ça c'est mal. Souvent, la définition du bien et du mal, ça dépend de notre éducation. Donc, le péché, c'est un acte qu'on ferait contre Dieu, en désobéissant à Dieu, comme Adam et Ève l'ont fait en leur temps. En désobéissant à Dieu. Alors, où est-ce qu'il faut obéir à Dieu? Eh bien, d'abord, figurez-vous, le premier acte, souvent, où l'on n'obéit pas à Dieu, c'est dans l'ordre de la foi. Quand on refuse de croire, ou quand on doute, ou quand on a du mal à croire, et qu'on ne se bat pas pour croire, en disant « je crois parce que je veux croire ». Vous voyez, pensez à tous les actes de votre vie théologale, dont on parlait ce matin, la foi, l'espérance et la charité. Est-ce que vous posez vraiment des actes de foi ou est-ce que vous laissez votre foi s'éteindre petit à petit? Est-ce que vous espérez dans la grâce de Dieu ou est-ce que vous dites, moi j'ai besoin de personne? Est-ce que vous aimez véritablement Dieu en étant prêt à lui consacrer jusqu'à l'immolation totale comme un martyr votre vie pour le Christ, pour l'Église? Ou est-ce que, surtout, comme un poisson, vous partez en courant?
Non, je ne suis pas poisson.
Saint-Pierre a été poisson plusieurs fois. Donc, il n'y a pas de con à être poisson. La foi, l'espérance, la charité. Et puis, puisque Jésus nous a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, « Tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. » Et à chaque fois que vous méprisez quiconque, que vous ne servez pas un autre, etc., c'est vis-à-vis de c'est Dieu lui-même que vous offensez directement. C'est Dieu lui-même que nous offensons directement. Eh bien, donc pour votre examen de conscience, pensez à tout cela. Tous les gestes de votre vie entre vous, en famille, au collège, voilà. Est-ce que vous, je vous laisse gérer dans votre vie si vous êtes obéissant, attentif aux autres, obéissant à l'écoute des autres, à leur service, ou alors est-ce que vous vous isolez? Le péché, dès qu'il est posé dans un geste contre l'autre, qui va rejoindre Dieu, ou contre Dieu directement dans les actes de la foi, de la vie théologale, le péché conduit toujours à un isolement des autres. Et ça peut aller jusqu'à un enfermement complet vis-à-vis des autres, un isolement complet, et ça c'est une des définitions les plus justes de l'enfer. Plus on s'éloigne de Dieu, plus on s'éloigne des autres, bien on se retrouve à se projeter soi-même en enfer. Alors que le pardon de Dieu, qui nous réconcilie, eh bien nous libère tout à fait, qui nous rétablit dans la communion avec Dieu et avec les autres pour que nous puissions aimer Dieu et les autres. Donc c'est ça que le péché est un isolement. On nous isole les uns des autres, alors qu'on est fait pour la relation, pour la communion. Le péché est un isolement. Nous isole, nous sépare des autres, mais pas pour être sanctifié, comme on l'a dit tout à l'heure, pour nous séparer de l'autre. Ensuite, je voudrais vous donner les, j'ai une autre technique pour ne pas l'oublier, les actes de la pénitence.
Bye.